Matière à penser, Frédéric Worms.
Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir Barbara Cassin, qui est philosophe, mais aussi philologue et même commissaire d'exposition. Bonsoir Barbara Cassin.
Bonsoir.
Merci d'être venue pour cette discussion. Alors je vous ai présenté d'une manière que vous m'aviez soufflé d'ailleurs, je vais le dire franchement, mais qui va peut-être surprendre les auditeurs, puisque j'ai dit que vous étiez philosophe, ça beaucoup le savent, philologue, on va rappeler ce que ça veut dire chez vous, mais commissaire d'exposition, tout le monde ne le sait pas, et vous venez pourtant en 2017 d'avoir animé, produit deux expositions coup sur coup, avec un point commun entre les deux qui est le mot de Babel, une à Marseille, une à Genève. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivée là, Barbara Cassin, à être commissaire d'abord et commissaire d'exposition?
Commissaire, je ne sais pas, mais commissaire d'exposition, oui. Ben, au fond, c'est une suite relativement logique. De tout le travail que j'ai fait depuis, une vingtaine d'années. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la traduction, et d'un tas de manières.
Donc Babel,
vient
de ce travail sur la traduction, oui. Évidemment. C'est le nom de la,
c'est
de
le
la
nom
pluralité des langues.
De la diversité des langues, et au fond, c'est le nom du bonheur qu'on a à stationner dans le divers. Bonheur que j'ai déjà éprouvé en faisant le dictionnaire des intraduisibles. C'était ça, j'appelais ça « Après Babel avec bonheur ». Ben du coup, c'est « Après Babel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Traduire ».
Mais alors, quand même, Barbara Cassin, donc, vous avez fait ce travail théorique sur la traduction et ses limites, sur l'intraduisible et sur cette condition heureuse en plus d'une langue, en plusieurs langues. Vous avez mis ça en pratique dans la philologie, mais comment est-ce qu'on montre ça et pourquoi est-ce qu'il faut le montrer dans des expositions? Pourquoi est-ce qu'il faut l'exposer, la traduction?
Si on y arrive, ce qui est une gageure à laquelle personne ne croyait, je dois dire que j'ai eu du mal à persuader un grand musée comme le MUCEM, puisque c'est là que ça s'est fait d'abord.
À Marseille, oui.
À Marseille, musée de civilisation d'Europe et de la Méditerranée. Je trouvais que c'était vraiment parfait pour montrer ce qui se passait avec la traduction. Qu'est-ce qui se passe? Deux choses, à mon avis, essentielles.
Ce qui se passe concrètement.
Concrètement.
Ce n'est pas juste dans un pur esprit qu'il y a un texte, des mots.
Les deux sont vrais et sont vrais simultanément. C'est-à-dire que la matière spirituelle se voit. Et au fond, il y a deux sens pour moi importants de la traduction. Le premier, c'est que c'est un savoir-faire avec les différences. Et ça, on en a besoin, on a tous besoin et on le fait tous. D'une manière ou d'une autre, et c'est, au fond, si j'avais une recommandation politique, ce serait celle-là, ben, apprenez donc à faire avec les différences. Si j'avais une recommandation, culturelle, en éducation, dans tous les domaines, je dirais,
je vous interromps, faire avec les différences. Il y a des différences, on les constate, et le modèle de la différence des langues est un cas d'évidence.
Oui.
Et faire avec, c'est faire un peu... Parce qu'on est obligé, il y a des différences, faut les faire passer, faire communiquer, comme la traduction consiste à faire communiquer.
On peut dire ça, c'est-à-dire
sans
les trahir.
Sans abolir.
Voilà.
Et sans trahir.
Stationnons, prenons le temps de travailler entre. C'est ça. Travaillons entre et faisons passer.
Le contraire, c'est quoi? Quand on ne fait pas avec, on ignore, on déforme, on réduit, on met une langue au-dessus des autres, on hiérarchise.
On peut hiérarchiser ou on peut globaliser.
Le
globiche, voilà, un repoussoir de la traduction. On va tous parler une langue approximative qui sera une langue de communication.
Qui n'est plus une langue, qui n'est même plus l'anglais, en un sens.
Voilà, qui n'est certainement plus l'anglais, et qui, en tout cas, pas l'anglais de Shakespeare, de Jane Austen, ou de qui que ce soit, qui écrit un texte en anglais. C'est l'anglais de « Let's go to the pictures », mais c'est même pas l'anglais de Daffodils. Voilà.
Daffodils, le poème de
ce qu'on
Keats,
apprenait tous.
Oui. A host of golden daffodils.
Voilà. Non, alors là, c'est plutôt la manière de demander un café de Taman Rasset à Pékin, ça marche. Bon, on va le demander en globish. Eh bien, c'est...
Et ça, pour vous, c'est l'envers, c'est l'inverse d'un autre geste avec les différences que traduire veut signifier aussi.
Absolument. C'est l'inverse d'un geste qui maintient les différences et qui passe entre. Et qui les fait communiquer. C'est ça la traduction, on traverse.
Mais alors, revenons à la question initiale, Barbara Cassa, parce qu'elle m'intrigue, et je pense que je ne suis pas le seul à être intrigué. Oui. Donc, il y a quand même ce geste d'exposer. Alors, c'est évidemment, on voit bien ce que vous voulez dire. On est dans un musée sur la Méditerranée, les civilisations. Donc, on va essayer de mettre en scène ce geste de passage, de passeur.
Oui, oui.
Mais quand même, on expose des textes. Dans l'autre exposition à Babel, ce sont des livres. Qu'est-ce qu'on voit quand il faut faire voir aussi concrètement ce qui est quand même l'élément de la traduction, c'est le langage, le texte, le livre, le manuscrit, l'éditeur.
Mais la politique aussi, on voit. J'ai fait deux expositions.
Voilà. Mais,
je complète quand je disais savoir-faire avec les différences, c'est l'une des deux grandes idées que j'ai essayé de mettre en scène au MUCEM. La deuxième, c'était ce que c'est que notre, et je ne sais pas du tout ce que veut dire notre, je mets tous les guillemets que vous voulez à ce nous, notre culture en Méditerranée, ça s'est fait à travers des passages traductifs. Et bon, alors, je
est-ce que vous
prends
pouvez
quelques
donner un exemple
exemples. Voilà. D'abord, on a fabriqué des objets. Pour les passages traductifs, ce que j'appelle les routes de la traduction, on a fabriqué une énorme table numérique sur le modèle des plans de métro parisiens, le PILI. Hein. On veut aller de la mode Piquet-Grenelle à Vincennes-Neuilly, comment on fait ? Bon, donc,
dans les stations de métro parisiennes, on a ces plans où on appuyait, maintenant c'est beaucoup sur les tablettes.
Ouais, mais c'est le même genre de truc.
Voilà, on était dans la station A et on appuyait sur B et il y avait un trajet qui se dessinait.
Voilà. Avec quelquefois des coupures, on changeait, hein, des changements et des stations.
Ça va vous plaire, hein, le trajet direct.
J'adore ça. Je me perds. Bon, alors là, imaginez que les lignes, c'est pas Vincennes-Neuilly, c'est Aristote, Galien, Euclide, Ptolémée, Les Mille et Une Nuits.
Alors Aristote,
Marx,
par
Tintin.
Exemple, il partait de la station Athènes.
Oui. Et puis, il changeait de langue. Donc, c'est les trajets en langue temporalisés. Mmh. Hein. Donc, on voit comment ça se goupille, les changements de langue, comment ça se transporte.
Donc, la deuxième station, par exemple, d'Aristote, c'est...
Oh, il y en a plusieurs. Mais enfin, il y a Alexandrie, il y a Rome, il y a Alexandrie, il y a Bagdad à un moment donné.
Bon, en Andalousie, certainement.
Bien sûr, il y a l'Andalousie. Et puis, on arrive
à la Sorbonne.
Oui, on passe par la Sorbonne, mais avant, on est quand même à Shanghai, par exemple, avec des traductions d'Aristote, des catégories d'Aristote par les jésuites et les mandarins. Bon, on est à Tombouctou, avec un certain nombre de manuscrits qui sont là-bas. Et tout ça change de langue et dessine une cartographie des routes de la traduction, comme il y a des routes de la soie, qui sont en même temps des routes du pouvoir et des routes de la culture. Donc ça peut se montrer. Et c'est drôlement pédagogique, mais dans tous les sens de drôle. Bon. Pour Marx, c'est extraordinaire. Pour Tintin, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit des routes un peu lentes, là, qui est un peu chaotique, ce sont tout d'un coup...
Une explosion. Tintin, tout d'un coup,
partout,
en 200 langues...
Partout, comme la Bible. Voilà. C'est plus rapide.
Un peu plus diffractée,
c'est
la Bible.
Plus rapide.
La Bible, un peu plus diffractée dans le temps.
Oui, la Bible est plus lente à se répandre. Eh bien, pour Tintin, ça part de ce petit bout-là, après, à Bruxelles.
Oui.
Et ça arrive dans le monde entier et dans toutes les langues et dans toutes les langues régionales. Là, par exemple, on montre Tintin en romanche.
Dans votre catalogue, très beau livre, comme les deux livres sont magnifiques, hein, Après Babel, traduire chez Actes Sud, et puis Les routes de la traduction, Babel à Genève, chez Gallimard et à la Fondation Bodmer, où ça a été donc exposé, en cours d'exposition en fin 2017. Mais chez vous, il y a quelque chose de plus quand même, Barbara Cassin, parce qu'on pourrait, tout le monde pourrait d'une certaine façon montrer ses trajets, mais il y a une hypothèse. On pourrait dire il y a Aristote, le vrai Aristote, qui est en grec, qui est... d'Athènes, et puis circuler, ça veut dire déformer, ça veut dire perdre, ça veut dire...
Ça veut dire gagner.
Et pour vous, au fond, est-ce qu'il y a même un vrai Aristote plus pur que les autres ?
J'aime pas beaucoup le mot vrai.
Voilà, donc est-ce que, votre hypothèse, c'est que la vérité, entre guillemets, d'Aristote se constitue justement dans ce passage.
Oui, alors justement, mon idée, c'est qu'on peut enlever le mot vérité, parce que là, ça ne marche pas très bien.
On l'enlève complètement
Moi, je l'enlève volontiers. En tout cas, je mets un petit V. Et puis, je mets certainement pas un grand V. Et puis, je dirais, au fond, mon exposition se conclut par une phrase de Borges. L'original est infidèle à la traduction. Mmh. Bon, voilà, c'est à peu près ça ce que je pense. Mais ça n'empêche pas que, on n'arrête pas de reconstituer et de constituer un Aristote original.
On cherche en même temps à être philologue. Vous avez absolument aussi, entre philosophe et commissaire d'exposition, entre autres figures d'ailleurs, il y a quand même la philologie. Alors, la philologie consiste à établir quelque chose, des textes, mais pas forcément une sorte d'absolu qui relativiserait tout le reste. La déformation qui a rendu l'original compliqué a autant d'intérêt et d'importance que cette recherche.
Absolument. Et puis surtout, l'original, vraiment, en philologie, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de mal à savoir ce que c'est. Il n'y a qu'à voir par rapport à Homère, par exemple. La querelle homérique, on n'est pas sûr qu'il y ait un Homère, on n'est pas sûr que ça soit le même qui ait écrit l'Iliade et l'Odyssée. C'est un jugement esthétique, dit Nietzsche. Mmh. Ça, j'adore cette phrase. Homère est un jugement esthétique. Je dirais bien ça de tous les auteurs, ou presque.
Un jugement esthétique, c'est quand même assez normatif aussi. Ça veut dire qu'il y a une unité de style.
Voilà.
Il y a quand même une unité. N'est pas totalement perdu. C'est peut-être la vérité avec un petit V, mais il y a quand même pas non plus rien. On n'est pas dans une diffraction totale.
Il n'y a pas du tout rien. Il y a vraiment quelque chose. Ouais. Il y a simplement quelque chose de compliqué. Et c'est ça mon idée, c'est que cette complication est vraiment passionnante. Mmh. Et cette complication fait tout à fait écho à la diversité des langues. Et quand on dit on perd quelque chose quand on n'est plus dans l'original, ouais, ou quand on traduit. Mais mon idée est évidemment aussi qu'on gagne. C'est-à-dire que si vous regardez comment s'est constituée la médecine, elle s'est bien constituée d'une certaine manière à partir de Galien, mais évidemment à travers la médecine arabe. Bon, de même, Ptolémée, l'astronomie s'est constituée à partir de l'Almageste, mais à travers des tas de calculs. Et après tout, la Bible s'est aussi constituée de cette manière-là. Donc, vous me demandiez qu'est-ce qu'on montre.
Oui, qu'est-ce qu'on montre.
Voilà. Par exemple, on se pose des questions qu'on peut montrer. Je montre comment traduire la parole de Dieu. Point d'interrogation.
Alors, c'est une de vos interrogations centrales aujourd'hui, Barbara Cassin. Je rappelle que vous êtes en train de poursuivre votre travail sur les intraduisibles en l'appliquant aux questions des textes religieux. Les intraduisibles des monothéismes, c'est entre les trois monothéismes qui sont aussi dans plus d'une langue, même plus que trois langues d'ailleurs.
Absolument.
Ce serait beaucoup trop simple.
Beaucoup plus que trois langues.
Il y a le grec, ce serait trop simple si c'était seulement trois langues. Mais alors justement,
Là
aussi, continuons encore sur ce fait de montrer.
Oui.
Vous travaillez sur ces intraduisibles des textes sacrés,
on
y reviendra, mais comment est-ce qu'on montre avec évidence?
Mais c'est très simple.
Parce qu'en général, on montre l'image de la tour de Babel, ça suffit pas ça.
Mais montrons les intraduisibles des trois monothéismes. Montrons la difficulté de traduire la parole de Dieu mettons Dieu avec un petit D, un grand D,
philologue, on n'a pas besoin de dire ce qu'on est d'autre.
Voilà. Donc, je montre, par exemple, trois manuscrits. Le premier, c'est une Torah. Dans la Torah, il y a un certain rapport à la pluralité des langues, c'est-à-dire que c'est de l'hébreu, et puis il y a un targoum en araméen, et puis
il y a au moins... Il faut que vous nous traduisiez
Targoum, c'est le commentaire.
Je sais que tout n'est pas traduit.
Disons, c'est tout autour, c'est entouré d'araméen.
Une frange de commentaire en araméen, donc il y a déjà deux langues.
Il y a déjà deux langues. Ensuite, dit-on, le grand rabbin qui a demandé à Ptolémée Philadelphe s'il pouvait faire traduire en grec. Le rapport à la pluralité des langues est d'une certaine manière inscrit dans, disons, la Torah et ses commentaires.
Déjà dans une seule des religions.
Dans une seule des religions.
Déjà dans une seule des religions.
Elle est inscrite d'une certaine manière.
Il y a déjà plus d'une langue.
Oui, dans celle-là. Parce que prenons à l'autre bout le Coran. Le Coran a été révélé en arabe, c'est la langue de révélation, et il est psalmodié en arabe, et il doit, pour tous ses usages liturgiques, rester en arabe. Donc, en fait, on ne traduit pas le Coran, on traduit le sens du Coran.
D'accord.
Ce qui est très différent.
Quand on traduit, on n'est déjà plus dans le Coran, littéralement.
On n'est plus littéralement dans le Coran, et j'aime beaucoup cette phrase de Souleymane Bachir Diagne qui dit « on ne traduit pas le Coran, surtout pas en Wolof ».
Souleyman Bachir Diagne, qui est donc un grand philosophe des religions, et notamment de l'islam, d'origine sénégalaise, mais voilà. Qui enseigne aux États-Unis, passe souvent par la France.
Et qui est l'un de ceux autour de qui se construit ces intraduisibles des trois monothéismes. Donc, bon, vous voyez déjà, quand vous comparez...
Quand il dit surtout pas en Wolof, il n'est pas là, il faudrait lui demander, mais qu'est-ce que vous pensez qu'il veut dire
hein? Il dit qu'il y a des langues encore moins dignes que d'autres de recevoir quelque chose selon un certain type de pensée du Coran, selon une certaine appréhension du Coran. Il y a des langues encore moins dignes que d'autres de tenir cette révélation. Mais en même temps, on peut dire, et il le dit... que c'est la révélation qui dignifie la langue.
Bon. Donc là, Barbara Cassin, on est à un sens, on va digresser une seconde là-dessus, on est à un sens de l'intraduisible radicalement opposé au vôtre. C'est-à-dire, vous, quand vous dites intraduisible, vous constatez la pluralité des langues. Quand on dit que le Coran est littéralement intraduisible, que dès qu'on le traduit, on n'est plus dans le Coran, on est plus, au contraire dans l'absolu d'une
absolument.
Langue.
Absolument. Alors que pour moi, je définis toujours l'intraduisible, non pas comme ce qu'on ne traduit pas. D'ailleurs, je mets un S à l'intraduisible.
Dans votre vocabulaire, des intraduisibles. Oui. Et les intraduisibles, des monothéismes.
Oui. Alors, ce n'est pas ce qu'on ne traduit pas, c'est ce qu'on n'arrête pas de ne pas traduire. Bon. Donc, autrement dit, c'est juste une incitation à continuer et à réfléchir.
Chacun va retraduire.
Et à rester entre.
On est dans le retraduire.
Oui. Et on est dans la réflexion, bon, dans la recherche. Alors, bon, vous voyez déjà ces deux manuscrits comme ça, une Torah et un Coran. Le Coran, comment ça se voit que ça ne se traduit pas? Nous avons montré un Coran avec une traduction juxta-intralinéaire. Et pas intralinéaire. C'est-à-dire que sous une phrase arabe, il y avait une phrase en persan, cette phrase ne se syntaxisait pas. Si vous regardez, il y a juste un mot sous un mot, mais ça ne fait pas une phrase. Donc ça ne se dit pas.
Donc on donne les éléments d'une traduction, mais on ne refait pas un autre texte. En
voilà.
Fait.
Donc ça.
Il y a un texte, il y a des éléments de compréhension de ce texte dans une autre langue,
voilà.
Mais on refuse l'idée de traduire.
Justement. Voilà. Le texte n'est pas tel que transposé. Bon. Donc vous voyez déjà, ça se voit. Avec les manuscrits qu'on montre. Et le troisième manuscrit que j'ai montré, ou le troisième ouvrage, c'est la Bible d'Alcala, c'est-à-dire une sublime Bible polyglotte qui a été faite pour le cardinal Jiménez et par lui.
Alcala, donc on est en Espagne,
en Espagne.
Cette terre de passage. Justement.
Absolument. Et cette Bible comporte une colonne centrale qui est en latin. Le latin de la Vulgate de saint Jérôme, la seule langue autorisée, la seule qui a passé sa vie à traduire la Bible, et il l'a traduite à partir des textes hébreux, à partir du grec, et donc il l'a traduite en latin, ça a donné la Vulgate, qui est le seul texte autorisé pendant des siècles par l'Église catholique. En tout cas, disons que c'est à partir d'un certain concile, c'est le texte canonique. Hein. Voilà. Donc, on a le texte de la Vulgate au centre, et puis de part et d'autre, on a le texte en hébreu et le texte en grec. Et le commentaire de Jiménez dit « Regardez, voilà le Christ et les deux larrons. » Ce que je trouve extraordinaire, si vous voulez, comme rapport aux langues.
Oui.
Comme si d'ailleurs le Christ parlait latin.
Donc il y a une des trois langues qui est
celle qui règne.
Celle qui règne, qui est divine au fond, et quand même les deux autres.
Divine, bien que le Christ parlât araméen, s'il parlait.
Le latin est promu.
La Vulgate est promue langue canonique, justement. Bon, vous voyez que ça n'est pas du tout le même rapport à la traduction, et ça se voit. Bon, maintenant,
Vous voulez montrer, Barbara Cassin, c'est il y a ces trois rapports différents à la traduction qu'on pourrait interpréter chacun selon la doctrine en question, la théologie
absolument.
Mais en même temps, ce que vous voulez montrer, c'est qu'on n'échappe pas au problème de la traduction, je dirais. Qu'on se situe dans le refus, dans la critique, ou bien qu'on internalise, ou bien qu'on hiérarchise. Tous les textes sont pris dans ce régime, tous les textes, en tout cas, là, les textes saints sont
évidemment,
pris dans
les textes,
ce problème.
Les textes sont tous pris dans ce problème, mais c'est nos vies qui sont prises dans ce problème. C'est plutôt ça qui m'intéresse, si vous voulez. Alors là, je le montre à travers des textes, mais on peut le montrer de manière encore plus concrète, par exemple. Restons dans traduire la parole de Dieu. Bon, l'un des points les plus forts et l'un des points d'achoppement les plus violents de la traduction, c'est les équivoques, les homonymies.
Un mot qui a plusieurs sens.
Un mot qui a plusieurs sens, et, ou même une phrase même une qui phrase. A plusieurs sens.
Et là, il faut choisir.
Il faut choisir ou pas. Moi, mon rêve est de ne pas choisir, c'est-à-dire de pouvoir réinterpréter et retraduire. Mais évidemment, il y a une traduction qu'on choisit quand on écrit et même quand on pense.
Si on comprend qu'une même phrase a plusieurs sens, on va essayer de suggérer toujours cette pluralité, mais on est obligé quand même d'en privilégier en traduisant.
Enfin, je sais pas. Là, mon rêve est quand même de travailler avec, dans le virtuel et d'inventer quelque chose avec des artistes du virtuel. Mais laissons ce rêve de côté et voyons. Je voudrais répondre à votre question. Qu'est-ce qu'on montre ?
Qu'est-ce qu'on montre ?
Eh ben voilà. Saint Jérôme traduit que Moïse était. Alors, il traduit le mot Karan. K-R-N, donc une racine trilitaire. L'hébreu a trois lettres, et consonnes, et puis il ne met pas forcément les voyelles. Il ne met pas les voyelles au départ. Donc, voilà que ce mot, eh bien, Jérôme le comprend comme signifiant « cornu ». Et il le traduit par « cornutus ».
C'est un des sens possibles.
C'est un des sens possibles, oui.
C'est pas totalement...
C'est pas totalement incongru. C'est possible.
C'est possible.
Bon, voilà. Donc, voilà que Moïse se retrouve cornu. Et vous le voyez comme ça...
Chez Michel-Ange,
dans beaucoup, beaucoup... là, à la Bonne Mère, on montre dans la Bible de Luther, il y a une lettrine où on voit Moïse avec ses grandes cornes. Bon. Et puis... Que se passe-t-il d'autre ? Eh bien, que ça peut vouloir dire quelque chose du genre de « sa peau rayonnait ». Et donc, eh bien, on peut le traduire par « rayonnant ». Et on voit qu'il y a un certain nombre de magnifiques tableaux où on voit Moïse rayonner.
Et donc,
je pense à Chagall, par exemple. Eh bien, ça, on les montre. Bon, de même, prenons un autre exemple.
Donc
parce
vous
que
rendez visibles ces choix de traduction.
On rend visible et les choix de traduction et le fait qu'il y a équivoque et que c'est intéressant et que c'est même passionnant et que c'est là que les choses se passent.
Alors, Barbara Cassin, non seulement vous rendez les choses visibles, mais en un certain sens, vous allez pouvoir les rendre audibles et commenter aussi la traduction musicale et en chanson, puisque vous avez choisi, pour jalonner notre conversation, évidemment, je dirais, non pas seulement une chanson, mais la même chanson, entre guillemets, en deux langues et avec deux interprètes.
Je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit. Je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col, comme d'habitude.
Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off. More than I could chew, but through it all, when there was doubt.
France Culture, matière à penser, toujours avec vous, Barbara Cassin. Alors, on vient d'entendre deux voix, deux chanteurs. Je vous laisse rappeler de qui il s'agit et pourquoi on a entendu, entre guillemets, la même chanson dans plus d'une langue, dans deux langues.
Voilà, on l'a entendu dans deux cultures et avec... je trouve, génie de la chanson. Le premier, c'est Claude François.
Comme d'habitude.
Et le deuxième, c'est Sinatra, My Way.
C'est Claude François qui a commencé dans l'histoire de la chanson.
C'est Claude François qui a commencé.
L'original, c'est Claude François.
Sauf que My Way, c'est quand même une autre manière d'expliquer comme d'habitude et d'interpréter comme d'habitude. À ma manière, My Way, c'est quand même beaucoup plus... comment dire, ça a du panache et c'est beaucoup moins tristounet.
C'est pas littéral comme traduction.
Ah, c'est pas du tout.
C'est une traduction qui n'est pas littérale, qui est une interprétation déjà.
C'est une interprétation qui transforme le bonhomme. Je veux dire que Claude François, comme d'habitude, c'est très triste.
Alors que My Way, on revendique l'habitude, en fait. C'est mon style, c'est ma manière.
C'est mon style, voilà.
C'est ma manière, à ma façon. Et donc, d'une certaine façon, qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène ici de la traduction dont on parle dans cette conversation, qui a des enjeux esthétiques, mais aussi philosophiques et politiques. On va revenir aussi sur ces aspects vraiment philosophiques et politiques.
Il y a une réinvention.
Et est-ce qu'il faudrait qu'on ait tout le temps la même chanson en plus d'une langue ? Je prends l'expression « plus d'une » qui vient aussi de Jacques Derrida, qui disait toujours « il y a toujours plus d'un quelque chose ».
Derrida disait que s'il avait à donner une seule définition de la déconstruction, brève, elliptique, économique comme un mot d'ordre, je dirais sans phrase « plus d'une langue ».«
Plus d'une langue », c'est-à-dire ne jamais croire à l'unité, à l'unicité du langage et d'une langue.
Oui.
Ne pas non plus forcément croire que tout se défait dans la déconstruction, mais simplement un petit peu compliquer notre rapport aux langues.
Ben c'est ce que j'appelle compliquer l'universel, parce que plus d'une langue, à quoi ça sert de dire ça ? Pour moi, en tout cas, ça sert à dire que soi-même, on en parle une entre autres. Voilà. Et que on ne parle
moins,
pas...
Une au moins et une entre autres.
Une entre autres, et qu'on ne parle pas le logos comme les Grecs. C'est-à-dire qu'on ne parle pas, on n'a pas pour soi, à soi, le rapport entre, disons, discours et raison. Ce que veut dire logos, hein,
discours et raison. À la fois langue, discours,
raison. Et même langue grecque.
Et donc la prétention d'une langue à être la langue de l'être, la langue du vrai.
La langue universelle, parce que les autres...
La logique même du monde.
La logique du monde, parce que les autres, ceux qui n'ont pas le logos, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas tout à fait comme moi, eh bien ce sont des barbares, c'est-à-dire ils font bla bla bla. Et au fond, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit des hommes. Donc on voit à quel point ça s'enracine, cette appropriation de l'universel. Pour moi, le danger de l'universel, et c'est pourquoi c'est le sous-titre de mon éloge de la traduction, « Compliquer l'universel », eh bien le danger de l'universel, c'est que c'est toujours l'universel de quelqu'un.
Alors votre éloge de la traduction que vous venez de citer, qui est au fond un peu, je dirais, pas un manifeste, mais la table d'orientation dans vos activités, vos travaux à la fois théoriques et pratiques, votre
oui.
mise en pratique, c'est effectivement non seulement une sorte d'éloge de la traduction comme pratique accessoire, mais comme pratique essentielle, au fond. Même le mot essentiel, vous le mettriez entre guillemets, mais quand même, disons, ne pas considérer la traduction comme une activité secondaire, mais
oui.
plutôt comme le cœur même de la culture et de la pensée elle-même.
Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est un bon paradigme pour les humanités, voilà. Et je pense que les humanités, si elles ont encore quelque chose à nous apprendre, et je le crois, eh bien, c'est par là que ça passe.
Oui, parce qu'on dilue parfois les humanités qui reviennent beaucoup aujourd'hui dans une sorte de, soit de valeur vague, soit d'ensemble de savoirs. Mais en fait, ce sont des textes, c'est une culture, c'est des pratiques aussi, dont la pratique de la traduction est le cœur.
Absolument. Et on peut dire que la traduction, c'est la pointe ultime de tout ce qu'on fait avec un texte, depuis la manière de l'éditer jusqu'à l'interpréter.
Alors, Barbara Cassin, pour mettre un pied du côté politique, et il y en a plus d'un là aussi, vous reprenez aussi souvent la phrase célèbre, mais souvent mal interprétée, d'Umberto Eco, à propos de l'Europe.
Oui,
qui
la
dit,
langue de l'Europe.
La langue de l'Europe, c'est la traduction, qui est une phrase magnifique.
Magnifique.
Quel sens est-ce que vous lui donnez à cette phrase-là ? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il faut là être dans une sorte d'idéal un peu cosmopolitique de l'Europe, ou bien est-ce que c'est des pratiques précises ? Il faut traduire, s'entretraduire concrètement, complètement, tout le temps.
C'est pas ou bien.
Hein. Non, peut-être
bon,
les deux, oui.
C'est les deux. Mais ce que j'entends, moi, et c'est au fond là-dessus que j'ai construit le dictionnaire des intraduisibles, le vocabulaire européen des philosophies.
Oui, en fait, c'était dictionnaire des intraduisibles qui est devenu vocabulaire européen, justement.
Non, c'est...
Parce que l'éditeur
oui, voilà.
avait peur de cette notion un peu technique de dictionnaire des intraduisibles. Un peu paradoxal, mais en même temps très, très, très précise.
Oui. Donc, ce vocabulaire européen des philosophies, je l'ai fait d'une manière, enfin, philosophico-politique, si j'ose dire. Non pas, c'est pas de la philosophie politique, mais c'est de la philosophie et du politique, et de la politique. Et je l'ai fait à un moment où l'Europe avait inventé sa culture et où, à mon avis, ce qui menaçait, c'était un globish recouvrant l'ensemble...
Vous parlez au passé
Oui, je pense que ça le menace moins.
Ah bon ?
Oui, enfin, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'on commence à comprendre ce qu'on perd avec des non-langues, c'est-à-dire en réduisant les langues de culture à une langue de communication. Bon, la langue de communication, c'est le globish, mais gardons-la, très bien. Mais que ça n'abolisse pas les langues de culture. C'est-à-dire que je crois que ce qu'on commence à comprendre, c'est que, après tout, les textes écrits en globish, ben, en gros, c'est les dossiers de subvention qu'on demande à Bruxelles. Ça, c'est du globish. Mais
d'ailleurs,
terrible.
D'ailleurs, il faut peut-être pas opposer culture et communication au sens où la communication profonde, c'est plutôt des degrés de communication ou de, dans un cas de non-communication finalement. De, la culture est aussi ce qui se communique, mais qui communique une expérience qui a besoin de la précision des mots, qui a besoin de l'invention dans le langage,
non, mais je
et qui n'a pas besoin de juste de mots comme ticket d'échange.
Absolument. Je pose pas culture et communication,
c'est
mais
bien ce que je voulais préciser.
Je pose seulement langue de pure communication. Avec langue culturelle qu'on peut communiquer.
D'une communication aussi de l'incommunicable, voilà. Précisément, parce qu'il est peut-être le plus important à communiquer. Alors, il y a cette dimension européenne.
Oui.
Là, vous êtes... Donc, on vient de l'entendre, finalement, pas totalement pessimiste, disons. Il se passe quelque chose en Europe, pour
oui,
vous.
Oui, je ne suis pas totalement pessimiste, mais d'abord, j'ai entendu Emmanuel Macron parler d'intraduisible. Bon, ça me fait très plaisir. Je veux dire, quand il explique que la dette, c'est quelque chose d'intraduisible entre la France et l'Allemagne.
Entre l'Allemagne et la Grèce.
Oui, enfin la France aussi, oui. J'entends quelque chose de l'ordre de la schuld qui pèse sur les épaules en Allemagne.
La dette, la culpabilité.
La dette, la culpabilité, ce qui pèse. Bon, et puis juste le debitum, latino, comme ça, franco... Pas tout à fait grec, ça c'est encore un peu autre chose, mais en tout cas latin, bon ben voilà, on rend, puis ça y est, hein, c'est bon, on va, oui, ok, on vous doit, bon, on va vous rendre. C'est quand même pas la même chose. Donc ça m'amuse beaucoup et ça m'intéresse beaucoup.
Et une épaisseur linguistique et symbolique et historique de ce terme dans plusieurs langues,
oui.
La réduire simplement à un jeu comptable.
Oui. Donc ça, ça m'intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, et c'est le deuxième pan de ma protestation européenne, si vous voulez. Le premier pan, c'était le globish tout seul. Et le deuxième pan, c'est ce que j'ai appelé le nationalisme ontologique, c'est-à-dire une manière de faire une hiérarchie des langues en disant qu'il y en avait des vraiment philosophiques, c'était la Heidegger, si vous voulez. Il y en a des vraiment philosophiques, il y en a des vraiment bonnes, il y en a des vraiment meilleures que d'autres. Et si on suit Heidegger, la vraie langue, c'est le grec et l'allemand, encore plus grec que le grec.
Bon, qui a pris le relais.
Qui a pris le relais et qui même va plus loin. Donc, bon, c'est lié à une conception d'une langue enracinée dans un sol, dans un peuple. Et c'est une des terreurs, pour moi, qui n'est pas si éloignée de l'Europe d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire que la méfiance est toujours là.
Bien sûr, parce que il y avait une langue de l'origine, donc qui pouvait, comme vous l'aviez dit, chez les Grecs eux-mêmes, revendiquer un absolu par rapport à la barbarie, mais retrouver cela au XXe siècle dans une pluralité des langues, c'est aussi dire les autres ne sont pas véritablement des langues de pensée, sont justement de purs outils de communication et comme tels méprisables ou destructibles,
oui.
Au fond,
oui.
N'ont pas de valeur en elles-mêmes. Cette hiérarchie des langues, vous pensez qu'on en est un peu débarrassé, que l'Europe, parce que la France a eu son lot aussi,
oui.
Au XVIIIe siècle, on disait, il y avait des éloges
Rivarol.
Du français,
non,
voilà,
mais,
comme seule langue claire et nette,
Rivarol
contre
dit,
l'allemand, justement.
Rivarol disant, le français, c'est la langue du monde. Bon.
Donc on est sorti un peu de cette guerre des langues, Barbara Cassin, vous pensez, en Europe au moins?
Oui, il me semble, mais il me semble qu'on en est sorti justement à cause de cet ennemi commun qui est le globish. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre sur Google, quand je vois que Google, évidemment, parle toutes les langues, mais en même temps, parle toutes les langues comme des flavors. Il parle de linguistic flavors. C'est des parfums linguistiques. Donc, elles ne sont pas pour autant travaillées dans ce qu'elles ont de culture. Enfin, disons que ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que ça puisse passer comme ça, comme une monnaie.
Est-ce qu'il n'y a pas encore un risque, et ça va nous reconduire vers votre élargissement à un tout autre monde de votre question, que ces langues européennes se vivent collectivement comme supérieures à d'autres, qui sont si compliquées, des idéogrammes en chinois, en japonais, des langues uniquement parlées dans certains pays d'Afrique,
oui.
Des langues perdues, comme oui. Lévi-Strauss le regrettait beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas encore ce risque d'une dévaluation de cette infinie pluralité des langues, qui est très fragile?
Lévi-Strauss
disait que l'humanisme concret, et Claude Agel aussi, c'est de
oui.
préserver cette pluralité concrète des langues.
Oui.
Le Wolof dont parlait Souleymane Bachir Diagne que vous citiez, il est encore un peu minorisé dans cette hiérarchie politique des langues.
Oui. Je crois que là, il y a eu une définition qui m'a paru très bonne. Un dialecte, c'est une langue privée d'armée, ou une langue, c'est un dialecte avec une armée. Bon, c'est vrai que le poids
donc,
politique.
Le mot combien de divisions ?
Voilà. Le poids politique des langues est lié à leur statut. Comment on peut empêcher les gens d'être bêtes ? C'est difficile. Donc, c'est ça que j'essaye de faire avec ces expositions.
C'est peut-être aussi que cette question des langues rejoint des problèmes politiques, j'allais dire, encore plus fondamentaux.
Très lourd.
La distinction de « eux » et de « nous », une
Absolument.
Sorte de clôture de l'humain qui reconnaît difficilement sa propre universalité, sa propre traductibilité.
Enfin, surtout sa propre non-universalité, le fait qu'il y ait de l'autre.
Oui, mais sa propre universalité à travers la pluralité, à travers justement toutes les langues.
Mm-hmm.
Et comment est-ce que vous reliez cette réflexion sur les langues à votre travail sur les religions qui prend la forme aujourd'hui d'un projet dont je voudrais quand même que vous disiez un mot qui la sortie des routes de la traduction, c'est ce que vous appelez les maisons de la sagesse. Alors,
oui.
De quoi s'agit-il exactement, Barbara Cassin ?
Ah, c'est une chose que nous sommes en train d'essayer d'inventer. Évidemment, le mot renvoie au Bait HaLikma qui était.
Vous dites évidemment, et aussitôt, c'est
oui.
le même mot dans une autre langue.
C'est le même mot dans une autre langue.
Et vous dites évidemment, pour un ignorant comme moi, il va falloir quand même traduire, malheureusement.
C'est la maison de la sagesse. Ouais.
D'accord.
Mais c'était à Gundishapur, et puis c'était à Bagdad, voilà. Et donc, c'était des lieux où se réunissaient, au fond, les traducteurs. Et pour faire passer les sciences et pour les augmenter. Mais ce n'était pas seulement des lieux de traduction, c'était aussi des lieux de vie. Ça pouvait être bibliothèque, mais hôpital, observatoire astronomique. Bon. Et nous n'avons pas l'ambition de construire ce genre de maison de la sagesse aujourd'hui, au XXIe siècle,
en
France et dans nos villes. En revanche...
Pourquoi pas, pourtant, Barbara Cassin ? Il y avait des écrivains publics, on a peut-être besoin de traducteurs publics.
Oui, mais les traducteurs publics ne sont pas forcés d'être dans une maison qui a des portes et des fenêtres. Disons que l'idée des maisons de la sagesse, telle qu'on l'imagine maintenant, c'est plutôt des dispositifs en série de lieux et d'actions. Et, bon,
alors par exemple
je les décrirais maintenant en termes de temporalité et évidemment par rapport au gros problème d'aujourd'hui qui est au terrible problème qui est l'accueil des migrants.
C'est pour ça que j'évoquais l'idée peut-être nécessaire de traducteurs publics
mais
concrètement accessibles.
Absolument. Alors au moment de l'accueil, quand les gens arrivent, on leur demande de remplir des papiers. Est-ce que vous avez déjà vu comment sont fabriqués ces papiers ? Bon, on demande, par exemple, mais c'est des choses très simples, le nom, le prénom, le statut, c'est-à-dire marié, paxé, divorcé. Demandez donc ça à un tamoul.
En français, évidemment.
Oui, mais ça, c'est traduit. On peut le traduire, comment ? Qu'est-ce que ça veut dire si on demande à un tamoul s'il est paxé ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça veut dire, même quand on demande un nom et un prénom ? C'est pas toujours comme ça que ça se passe, la dénomination. Et si on demande l'âge, l'âge, c'est très compliqué. Si vous demandez l'année, par exemple, en Iran, n'est pas la même. On perd ou on gagne un an. Bon, toutes ces choses-là sont des points sensibles dans les cultures et des points sensibles de différence de culture. Notre idée, c'est d'arriver à faire un glossaire de la bureaucratie française qui serve autant aux bureaucrates, c'est-à-dire à l'administration française, que à ceux qui arrivent qui servent à faire comprendre justement ces différences, ces discordances de culture et qui servent à réfléchir sur les valeurs que nous enfermons dans nos petit questionnaire.
Oui, c'est pas seulement un outil de traduction au sens d'un ordinateur ou d'un programme qui permettrait de passer d'un mot à l'autre, mais essayer de comprendre la construction du monde comment traduire une construction du monde dans une autre et
Absolument.
Faire que l'accueil soit vraiment aussi une compréhension finalement.
Et même, de l'ordre de l'accueil, justement.
Même simplement un vrai accueil.
Un vrai accueil. Donc ça, c'est au moment de l'accueil. Ensuite, au moment de l'insertion.
Parce qu'on dit souvent, Barbara Cassin, pour vous interrompre, on dit souvent que pour insérer, il faut qu'ils apprennent la langue
Mais je suis d'accord. Arrivent.
C'est nécessaire. Et c'est un geste
sans
fondamental.
Sans oublier la leur.
Mais il faut aussi qu'ils puissent comprendre ce qu'on leur dit dans leur langue.
Oui. Et puis, à mon avis, c'est le moment de bien tenir ferme plus d'une langue. J'ai travaillé avec des enfants, des primo-arrivants, dans des classes, justement, où on parlait jusqu'à 20 langues à Marseille. Il y avait 20 langues qui étaient présentes. Et les questions que je posais, tout d'un coup, enfin, elles m'ont paru vraiment importantes et leur, les intéresser et leur plaire. Mmh. Je posais comme question, quel est le mot de votre langue qui vous manque le plus ? Et puis, une autre question, et quel est le mot du français qui vous paraît le plus étrange ? Mais on arrive à des cartographies passionnantes.
Des cartographies concrètes du rapport à la langue.
Tout à fait passionnantes, oui. Alors ça, c'est donc...
Vous allez publier ces réponses, Laure Barakasson ?
Elles ont été... elles ont fourni la matière d'un très grand mur, d'une simèse.
Encore une exposition.
À l'exposition du MUCEM, et puis ça se poursuit. Oui. Alors... Maintenant, le deuxième temps, le deuxième temps d'une maison de la sagesse, c'est ce qu'on appelle l'insertion. Et là, on a eu une idée qui nous vient des banques-musées du Mali, par exemple. C'est de coupler un microcrédit et un objet avec un récit. Les deux, disons, étant nécessaires pour décrire et fabriquer une trajectoire.
Donc les emprunteurs laissent en dépôt,
oui,
contre un prêt, un objet...
Ou montrent, après avoir reçu le prêt,
un objet
qui les définit auquel ils tiennent au point de dire et au point de raconter comment cet objet détermine leur parcours de vie.
Là aussi, il s'agit de compliquer la relation d'échange, finalement.
Absolument.
Montrer que l'échange n'est pas juste un élément neutre, mais qu'il se passe des différences, justement. Faire avec les différences, comme vous disiez, et puis
oui,
les mettre en scène. Et...
Oui, et puis, du coup, ça change un peu la notion de musée, ça change un peu la notion de valeur. Mmh. Enfin, et surtout, ça valorise un parcours de vie. J'appelle ça le patrimoine migrateur.
Est-ce que vous pensez que ces maisons de la sagesse peuvent avoir des effets face aux résistances, justement, très, très violentes à cet accueil, aux crispations devant les problèmes dont ils témoignent, au repli des, justement, européens, malgré tout.
Oui, si je ne le pensais pas, je ne le ferais pas.
Par quel biais, alors, à votre avis ? Par l'enseignement, l'exposition, le cheminement concret, le fait de se rendre compte que les autres ne sont pas seulement ni des corps, ni des problèmes, mais nous font aussi nous comprendre nous-mêmes, finalement.
Oui, vous le dites très bien.
Non,
parfaitement.
Alors, on peut... Alors, c'est qu'on est d'accord et que j'attends beaucoup aussi de ce projet qui, d'ailleurs, a une singularité sur laquelle, malheureusement, on va devoir conclure, mais sur laquelle je voudrais vous entendre une dernière fois, c'est que le lien entre ces projets concrets, si ça n'est pas justement seulement, j'allais dire, c'est très bien les bons sentiments, mais si ça n'est pas seulement des idées généreuses, ce qui est déjà fondamental, c'est que ça s'appuie aussi sur une vraie thèse philosophique. C'est que ce qui conduit au repli, y compris politique, c'est quand même toujours une philosophie du langage, une philosophie tout court, une philosophie de notre accès à l'être. Et au fond, inversement, ce qui nous ouvre à autrui, pour s'ouvrir à autrui, il faut avoir une vraie philosophie aussi critique. Une philosophie qui ne replie pas l'accès à l'être, qui ne fait pas une propriété des uns ou des autres.
Oui, qui ne s'approprie pas l'universel, justement. Mais le troisième temps...
Le mot philosophie, vous l'acceptez encore, Barbara Cassin ?
Oui, je mets bien un point d'interrogation de temps en temps, mais je l'accepte volontiers.
Il y a quand même
une
thèse philosophique très forte derrière la philologie et les expositions et les maisons
bien
de la
sûr. Sagesse. Et derrière les intraduisibles des trois monothéismes, encore pire. C'est-à-dire que c'est l'idée que peut-être, avec un petit recul critique, on va arriver à comprendre ce qu'on ne comprend pas, à comprendre qu'on ne comprend pas quand on ne comprend pas. Mmh. Donc si on se demande comment on dit Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran, comment on dit l'autre, comment on dit croire, eh bien on va comprendre un peu plus ce qui bloque.
Et le point commun de tout ça, entre traduire, passer, exposer et philosopher, c'est quand même discuter, c'est-à-dire ne parler plus d'une langue, ne pas être forcément d'accord et se contredire, et se dire et se contredire.
Oui, absolument.
Vous ne me contredites pas, donc, mais on peut aussi être d'accord.
on peut être d'accord au bout d'un certain temps quand on a parlé.
Quand on a bien parlé. Merci beaucoup, Barbara Cassin.
Merci.
Matière à penser, Barbara Cassin, Céline Leclerc, Claire Levasseur, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.